Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h06, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Fred Weiss. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, évidemment. Merci infiniment de votre fidélité. Merci de nous écouter en direct, mais également extrêmement nombreux en podcast. La première heure est déjà disponible, mais attendez tranquillement la fin de cette émission pour évidemment vous régaler. On est revenu sur la victoire du 15 de France facile, hein, victoire face au Japon. 52 à 12. Maintenant, il y aura la Nouvelle-Zélande samedi soir prochain. Et évidemment, dans les grandes gueules du sport, on parlera attentivement de cette rencontre. Dans quelques instants, France-Israël, le match de la peur. Est-ce encore un match de foot? Ce sera le bras de fer des GG. 10h30. Le dossier aujourd'hui. Léon Marchand qui fait des émules. Les jeunes nageurs français partent désormais aux États-Unis pour se former. La fuite des talents. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la natation française? Reportage évidemment de notre spécialiste Julien Richard. Et puis 10h45. Vous prenez les commandes de cette émission, mais GG, les GG contre-attaque. Vous avez quelques secondes pour nous vendre votre débat. Un débat soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Évidemment, celui, le grand vainqueur, celui qui gagne, eh bien, viendra exposer sa problématique. Allez, quelques secondes chacun pour nous vendre votre produit, votre salade, même si elle n'est pas fraîche, on ne sait pas. Simon Dutin.
Elle est toujours fraîche, surtout le dimanche à cette heure-ci. Le cave tire sa révérence. Mark Cavendish dispute ce matin à Singapour la dernière course d'une immense carrière. On rappelle, il est recordman de victoires d'étape dans le Tour de France. Mais bon, à l'heure où le cyclisme, c'est mais comme Pogacar. Bon, bref. En gros, est-ce que on peut considérer Cavendish comme un des plus grands coureurs cyclistes de l'histoire, alors que j'ai envie de dire, il n'a remporté des victoires quasiment qu'au sprint.
Voilà. Ok, et pas de grandes courses évidemment, hormis des étapes du Tour de France.
Pas grand tour, voilà, tout ça.
Ok, c'est un très bon débat choisi par Simon ce matin. Sarah, on fait quoi?
Oh bah moi j'en ai un meilleur.
Ah.
Ah bah oui, parce qu'en l'absence d'Mbappé et de Tchouaméni, bah le brassard de capitaine de l'équipe de France devrait revenir à N'Golo Kanté. Donc moi j'ai une question. Est-ce que Didier Deschamps doit définitivement revenir en arrière et enlever le brassard de capitaine Mbappé?
Ok, on a parlé hier évidemment d'Mbappé et de cette sortie de Didier Deschamps en conférence de presse qu'il a écarté pour ce dernier rassemblement. Tu vas plus loin en parlant du brassard de capitaine. C'est une tactique, bravo Sarah, parce que tu veux gagner, donc tu t'es dit, tiens, si je parle d'Mbappé, est-ce que je vais gagner?
Oui.
À mon avis, les autres n'ont pas fait ce choix, heureusement. Marion Bartoli.
Alors moi aussi autour d'Mbappé, mais j'ai tourné un petit peu différemment.
Parce qu'elle aime bien gagner aussi.
Voilà, exactement. Alors, je vais parler d'Ancelotti, parce que j'adore cet entraîneur. Mais est-ce que Ancelotti va finir par perdre patience avec Mbappé et donc le mettre sur le banc?
Ok, alors vraiment les filles, je m'attendais,
là,
vraiment, je m'attendais pas.
On est un peu stratège quand même, non?
Je m'attendais pas à ça de vous. Voilà. Vous me dites oui, mais parfois le foot, tout ça, et les deux, paf, elles partent sur Mbappé. Bravo en tout cas, choix judicieux, on verra dans quelques instants. Fred Weiss, tu vas te battre avec quoi?
Alors moi je vais me battre, mais déjà c'est assez simple parce que les sujets Mbappé vont se vampiriser, le sujet de Simon est pas terrible, donc moi j'ai parlé de quelque chose de différent.
NBA,
je
de NBA Joel, au hasard NBA. Ah ben voilà,
Joel
bingo.
A été suspendu trois matchs par la NBA. Alors vous devriez dire, Fred, tu dois être super content vu l'amour que je lui porte. Non, là c'est parce qu'il a bousculé un journaliste qui dans son article a parlé de son frère décédé, de son fils, de sa famille, et ça a vraiment énervé Joel Embiid, et je trouve ça un peu honteux que la NBA le suspende pour ça.
Ok, merci.
Et du coup, il y a une question, il y a un débat, c'est...
Non, c'est moi qui parlerai.
D'accord, c'est un édito. C'est un édito, non, d'accord.
C'est
on écoute le mec.
Parce que tu es le Rodri, quelque part, des GG du sport. Tu t'attends à ce que les voix se dispersent entre les deux Mbappé, pour justement, comme Vinicius, pour rafler la mise.
Exactement.
Et bien, réponse à 10h45. Restez bien avec nous, évidemment, dans les grandes gueules du sport. On repartira dans quelques instants au Sable de l'Aude, mais pas tout de suite. On retrouvera Maria Azé qui est en train d'embarquer. Évidemment, tous les marins, les navigateurs, elles sont en train de remonter le chenal, de faire des coucous au public. 1 million de personnes au Sable de l'Aude pour suivre cet événement. C'est tous les 4 ans, le départ du 10e Vendée Globe. Un débat à venir dans cette émission. Ce sera à partir de 11h. Mais tout de suite, on va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de William Shakespeare qui a dit un jour, la sécurité est la plus grande ennemie des mortels.
RMC. Le bras de fer GG.
L'extrême violence, ça s'est passé cette nuit à Amsterdam à l'issue du match entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax Amsterdam. Les supporters israéliens, vous le voyez sur ces images, ont été pris pour cible, attaqués, frappés dans les rues.
Nous avons pris la décision du déroulement dans son lieu d'origine, où il devait se dérouler, c'est-à-dire, vous le savez, au Stade de France. Arrêtons les renoncements. Nous sommes en France, dans la République française, et moi je tiens à ce qu'un match de foot même si c'est France-Israël, puisse se dérouler dans des conditions normales.
Normal, même si c'est pas forcément le terme autour de cette rencontre. Jeudi soir, le match le plus sensible de l'année aura lieu au Stade de France, France-Israël, donc une rencontre de Ligue des Nations considérée à haut risque hein, par les autorités après les événements cette semaine à Amsterdam. Le dispositif pourrait être encore renforcé. Il sera en tout cas digne des Jeux Olympiques de Paris à l'approche de cette rencontre. Le climat, vous le savez, se fait de plus en plus pesant. Le gouvernement français, vous l'avez entendu, ne veut pas changer de cap et veut maintenir ce match au Stade de France comme un stade qui sonnera creux. Seulement 20 000 billets ont été vendus. France-Israël, est-ce encore un match de foot? Dans le coin gauche, la team oui, représentée par Simon Dutin. Et il est seul. Dans le coin droit, la team non, Fred Weiss, Marion Bartoli et Sarah Pitkowski. Avant de débattre sur ce sujet sensible, évidemment, on va retrouver notre journaliste RMC Sport.
Non, moi Nicolas. J'avais dit oui.
T'avais dit oui, Marion, eh pardonne-moi. Oui, c'est ton oubli Simon. De ma part. Alors c'est Marion Bartoli avec Simon Dutin, ce sera donc un de deux. Oui. Nicolas Pelletier est avec nous. Salut Nicolas.
Salut à tous.
Salut Nico. Salut.
C'est un
salut.
Match où il n'est question que de sécurité à l'heure actuelle.
Oui, à date, 2500 membres des forces de l'ordre seront déployés aux abords immédiats de l'enceinte jeudi soir pour sécuriser ces 20 000 spectateurs dans un stade qui peut en accueillir 80 000. En ajoutant les forces mobiles et les patrouilles dans les rues de la capitale, le dispositif devrait dépasser les 3500 policiers et gendarmes mobilisés autour de ce match. 1400 stadiers seront aussi présents au Stade de France où un contrôle d'identité sera effectué à l'entrée de la zone. Les 7 derniers rangs des tribunes seront condamnés pour éviter un envahissement de la pelouse. Pour vous donner une comparaison, la finale de la Ligue des Champions en 2022 avec 80 000 supporters dans le stade et plusieurs milliers dans les rues de Paris avait mobilisé 6800 policiers et gendarmes. Sans surprise, après les événements à Amsterdam jeudi soir, ce dispositif devrait évoluer dans les toutes prochaines heures. Ce qui est déjà une certitude chez plusieurs sources policières, c'est que la jauge dite naturelle s'est produite. En clair, au regard du contexte sécuritaire, les potentiels spectateurs ont préféré ne pas acheter de billets. L'autre point sensible sera la sécurité autour de l'équipe d'Israël. Dès son arrivée sur le territoire français, elle sera prise en charge par des unités d'élite pour une protection 24 heures sur 24 et son hôtel sera mis sous cloche pendant son séjour sur le territoire français. On a très peur côté police de manifestations devant cet hôtel. Des joueurs qui seront en permanence accompagnés par des hommes des services de sécurité israélien. C'est le cas lors de tous les déplacements de la sélection partout dans le monde. Mais avec les événements à Amsterdam, ce dispositif israélien va lui aussi être renforcé.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier. Toutes les précisions, toutes les dernières informations, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. Tu restes avec nous pour ce débat. Est-ce encore un match de foot ce France-Israël? Oui ou non? J'ai deux oui, j'ai deux non. On vous a posé cette question sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Un œil à la consultation. Pour l'instant, c'était assez serré. Hein. Je suis assez étonné d'ailleurs. C'est 43% oui, 57% non. Le camp du oui, vous commencez. Oui, c'est encore un match de foot. Marion Bartoli.
Oui, ça reste un match de foot et d'ailleurs ça a été dit dans le sujet. Pour moi, ça me rappelle effectivement les Jeux Olympiques et tous ces débats qu'on avait avant les Jeux Olympiques. J'ai eu la chance d'interviewer Monsieur le Président de la République à J-100 lorsqu'on avait fait l'émission avec Apolline de Malherbe. On lui avait posé exactement la même question et sa réponse à l'époque avait été très juste. Et c'est vrai qu'on avait du mal à se projeter parce qu'on les avait tellement expliqué pendant des jours et des jours et des émissions que ça serait les Jeux les plus à haut risque de l'histoire des Jeux Olympiques. On était quasiment certain d'avoir un attentat, que la cérémonie d'ouverture c'était une folie, que d'arriver à sécuriser cette cérémonie ça serait totalement impossible. Et finalement la France est arrivée à produire des Jeux Olympiques avec un engouement populaire absolument exceptionnel. Il y a eu heureusement bien évidemment pour l'image de la France aucun attentat, rien n'a dépassé c'est le cadre sportif et je pense qu'effectivement notre pays est en capacité d'assurer une sécurité pour un match sportif, alors que ça soit un match sportif différent bien évidemment parce qu'il y a un contexte géopolitique qui nous dépasse et qu'on accueille un pays qui aujourd'hui je ne vais pas faire un cours géopolitique mais on sait très bien ce qui est en train de se passer avec Israël. Donc que ce match-là soit plus à haut risque que d'autres, oui, mais on l'a vu aussi pour une finale de Ligue des Champions. On était peut-être moins préparés. On s'est dit, c'est un simple match de foot. Et on a vu comment ça s'est déroulé. Donc, de toute façon, dans les enceintes sportives actuelles, il y a des débordements de toutes parts, que ça soit pour des matchs où on a l'impression qu'il n'y aura pas d'incident, il y en a malheureusement. Que ce match-là soit un petit peu différent des autres, oui, mais ça reste un match de foot, ça reste une compétition sportive et la France est en capacité d'assurer la sécurité de cette compétition sportive, donc de ce match de foot.
Ok, c'était très clair. Le camp du non, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, qui veut y aller?
Comme tu veux.
Alors, le non, tout simplement parce que déjà l'intérêt sportif, il est minime, pour preuve, même sans fermer le nombre de billets, la billetterie a été famélique. entre 15 et 20 000 places vendues, c'est bien sûr que même
oui, mais
les fans.
Tu sais pourquoi, Sarah? Parce que c'est un acte engagé d'y aller, comme c'est un acte engagé de ne pas y aller.
Oui, on est d'accord.
Donc c'est encore une fois, c'est une preuve supplémentaire.
Donc ça prouve qu'on ne parle pas que de sport. Exactement. On parle de politique et cet enjeu.
La fédération d'ailleurs n'a même pas fait la pub pour inciter à acheter les places.
Et ce match-là, au-delà du sujet sécuritaire, il est politique. Effectivement, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais la sécurité autour du Stade de France, moi, j'ai absolument aucun doute. Mais en fait, cette confrontation, elle peut aussi dépasser bien loin que le Stade de France. C'est-à-dire que quand on déploie autant de forces policières dans Paris, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui vont utiliser ce match de foot et cette confrontation avec l'Israël pour essayer de faire des actes antisémites dans Paris ou ailleurs. Donc évidemment, ce n'est pas juste un match de foot. Et ce qui s'est passé à Amsterdam, repris par des politiques qui mélangent des confrontations hooligans à un pogrom, là, on va quand même très très loin. Donc en plus, nous en France, on est en train d'attiser cette haine. Je vais juste revenir à un autre exemple. Il y a eu un autre match qu'on avait voulu amical pour avoir une forme de rassemblement. C'est un France-Algérie en 2001 au Stade de France. C'était quoi? C'était juste un match amical. On se souvient qu'il a été arrêté ce match par un envahissement de terrain. Et quoi? Ça a exacerbé quoi? Les problèmes qu'on avait dans les banlieues. Donc en fait, ce match France-Israël, il est en train d'exacerber malheureusement ce qui est en train de se passer en France. Et c'est un déplacement d'un sujet géopolitique.
Mais tu fais quoi du coup, Sarah? Tu l'annules? Pardon? Tu l'annules? Tu fais pas jouer? Alors tu fais quoi? Alors c'est quoi ta solution?
Mais j'ai pas dit qu'il fallait pas jouer.
Parce que tu prends l'exemple de France-Algérie où il y a eu des débordements, où l'hymne national français.
Mais
avait
tu le
été
joues
chiffré,
le match. Mais la question est, est-ce que c'est encore un match sportif? Non, malheureusement.
Mais tu peux le dire. Tu peux le dire.
C'est pas juste un match sportif, mais ça reste un match sportif.
Quand j'ai écouté Nico parler, moi j'ai entendu que des stats, mais des stats pas qui avaient aucun rapport avec le foot, des stats par rapport à la police.
Parce que c'est le prisme que vous prenez, parce que politiquement,
le Premier ministre
a dit que la France ne recule pas.
Donc il a mis tout en œuvre pour que la France ne recule pas. C'est un acte politique. Politiquement, de l'autre côté, on est en train de dire je veux que ce match n'ait pas lieu. Donc Il y a que ça. Pourquoi? Il y a plein de gens qui disent aussi pourquoi. Je sais plus qui l'a dit. Faire jouer ce match en Corse. Parce que en fait, c'est la problématique de ce match est bien plus importante.
Pourquoi,
va bien au-delà du sportif. Parce qu'encore une fois, sportivement, il y a rien. C'est une compétition en bois.
Ouais.
Contre la 81e nation.
Mais les poules ont été tirées comme ça.
Tout ce qu'il y a autour prend plus le pas dessus. Et c'est catastrophique par rapport
la
à ça.
La question aussi de savoir, parce que quand on a un match comme ça au risque, alors peut-être pas dans ses proportions évidemment, mais souvent on en parle beaucoup avant le match, et puis dès qu'il y a le coup de sifflet, on est projeté sur le sportif, on regarde le sportif et tout ça. Et bizarrement, sur cette rencontre, on a l'impression que même ce qui va se passer pendant 90 minutes.
Mais on va retenir notre souffle pendant 90 minutes parce qu'on va regarder ce qui se passe en dehors
mais
du stade.
On n'a pas retenu notre souffle pendant tous les JO?
Les JO, c'était une attaque contre la France éventuelle, c'est-à-dire contre une démocratie. Là, on vise une nationalité, un pays, une religion. Donc, c'est pas la même chose.
Jeudi, c'est passé des choses.
Il y a eu aussi un envahissement de la Fédération française de football lundi dernier. Donc, ça a aussi inquiété les services de renseignement parce qu'il y a beaucoup d'appels au rassemblement autour de cette rencontre. Et il y a aussi eu un Israël-France il y a un mois en Hongrie. Plus personne se souvient du résultat, on se souvient uniquement de Mbappé qui était pas là, mais on se souvient aussi du contexte sécuritaire autour de cette rencontre où il y avait 1000 personnes dans le stade et les Bleus et l'équipe israélienne fortement encadrée avec des unités d'élite. J'ai jamais vu ça autour d'un match de football. Donc voilà, on retient aussi
et
ces images.
Les Belges n'ont pas joué en Belgique.
Exactement,
ils ont délocalisé leur match.
Non mais les Belges sont allés délocaliser en Hongrie parce qu'ils n'étaient pas capables d'assurer la sécurité. Mais en fait, le problème c'est que si on recule. Si on se dit, ah ben non, mais du coup, ça nous fait trop peur, on n'y va pas. C'est-à-dire qu'on arrête de mettre le sport là où il doit être. C'est-à-dire qu'on se dit, ben c'est un sujet qui est trop politique, donc on n'est plus capable d'assumer, donc on enlève le sportif et donc on refuse d'accueillir cette compétition sportive.
Mais Marion, ne dit pas qu'il ne faut pas le jouer ce match. C'est que nous, de notre point de vue, il est plus politique que sportif, mais à aucun moment, on ne dit qu'il ne faut pas jouer ce match-là, parce que ce serait reculer.
Il est politique, pourquoi la France...
Politique, pourquoi?
C'est... Il est politique pourquoi ? En quoi est-il politique ? Là, a priori, il va y avoir quand même deux équipes, deux 11 joueurs, un ballon, un stade, un match de 90 minutes
et un résultat.
C'est doux et la sphère politique qui s'est emparée alors de ce qui s'est passé à Amsterdam jeudi, même si le contexte était différent. On rappelle quand même que... je suis désolé, les comparaisons avec les pogroms, on comprend qu'elles
fleurissent.
C'est normal que ça rappelle ce qui reste le cauchemar dont l'humanité n'arrive pas à se...
Non mais ça c'est un politique qui te dit que ça n'en est pas ce qui s'est passé à Amsterdam.
Amsterdam, c'est quand même du foot de club. Donc qui réunit des ultras et qui à ce titre-là ont un comportement qu'on peut imaginer que on n'observera pas au stade de France.
La moindre des choses, c'est de se taire.
En fait, il y a deux solutions. Soit tu interdis à Israël, qui est un pays en guerre, tu interdis à Israël de participer aux compétitions tant que ils sont en conflit avec leurs voisins. Voilà, Israël prétend que il répond
à. Mais on ne vend pas ce qui n'est pas lieu ce match-là.
Non, mais dans ce cas-là, si les pays sont autorisés à jouer des compétitions, pourquoi faire dire autre chose que il y a trois points à remporter et voilà.
Parce que Nicolas dit le match aller, personne s'en soucie, personne se rappelle même du score. Parce qu'il n'a pas d'importance.
Non, parce que c'est la force d'une compétition qui peine à intéresser les gens.
Oui, mais il a été surtout relégué à la deuxième place. Il y a la politique qui a pris le pas énormément dessus, Simon.
Mais regarde, le premier match contre Israël, il n'y avait pas un contexte. Enfin, je veux dire, on n'en a pas fait des caisses. On a
plus parlé du fait qu'Mbappé n'ait pas joué contre Israël.
Voilà, et on a souligné le fait qu'Israël ne disputait pas.
Là, maintenant, c'est sur le territoire français où les actes, on le sait, d'antisémitisme se sont multipliés depuis plusieurs mois maintenant. Et donc, ce match, difficile, mais tu peux défendre cette thèse, difficile de voir ce match comme une rencontre sportive.
C'est quand même
ça reste un match.
Ça reste un match de foot.
C'est comme des matchs. Enfin, il y a un baromètre, des risques qui entourent une rencontre. Il y a, je pense, la force également du symbole pour les autorités françaises, pour le gouvernement d'Israël, de dire on est capable de faire face à tous ces risques de débordement et on est plus fort. Enfin, c'est une façon de dire voilà, on est plus fort que ces actes d'antisémitisme qui se multiplient partout.
Donc c'est des sportifs. Je suis d'accord avec toi, Simon. C'est évidemment ça.
Bah non, justement, puisqu'on va considérer qu'il est plus important de faire disputer ces 90 minutes plutôt que de l'annuler. Si on l'avait annulé, au contraire, voilà, on s'en
fout. Vous pensez pas que ce match est en train de servir une tribune pour les gens qui sont effectivement contre ce conflit, qui veulent que la France prenne un parti plutôt qu'un autre sur ce conflit?
Ils n'ont pas besoin de ça pour montrer qu'ils sont contre ce conflit.
Mais si, bien sûr,
regarde les journaux toute la journée, regarde les chaînes d'infos, on parle que de ça toute la journée, pas besoin de ce match en plus.
Mais ce match est une tribune pour certains, pour preuve. Tu as des gens qui sont allés manifester devant la Fédération Française de Foot en disant effectivement qu'il fallait absolument pas jouer ce match. Il y a quand même eu une banderole. Il y a quand même eu une banderole sur le dernier match du PSG, sur Free Palestine. Vous trouvez pas que le foot est en train de servir une tribune?
Alors, Sarah, des drapeaux palestiniens, il y en a dans les manifs de la CGT, il y en a dans tous les virages.
Mais là, on est dans un stade de foot, puisque vous êtes en train de le mettre sur le niveau du sport de résistance.
C'est
on est d'accord, mais là, il y a des choses politiques qui investissent le sport. Donc, il y a un moment, la limite entre le sport et la politique, elle devient très faible. Et ce match-là est pour moi une preuve qu'on a basculé plus dans la politique que le sport.
La preuve, c'est le ministère de l'Intérieur qui parle.
La recrudescence d'actes antisémites.
C'est le ministère de l'Intérieur qui s'exprime.
La recrudescence d'actes antisémites en France, elles n'ont pas attendu d'avoir France-Israël pour avoir une recrudescence d'actes antisémites. Je suis désolée.
Donc, c'est pas
autour de ce match de manière supplémentaire que les gens vont trouver une raison pour avoir
un symbole politique.
Il y aura un élément aussi qu'il faudra scruter dans les tribunes du Stade de France, et qu'il y a seulement les deux drapeaux israéliens et français qui seront autorisés dans le Stade de France jeudi soir. Et d'ailleurs, ça avait causé, parce qu'on dit que les JO se sont bien passés, mais il y a aussi eu des petits incidents dans les Jeux Olympiques, des alertes mineures, ce qu'on appelle. Mais il y a aussi eu des incidents lors d'un match de l'équipe israélienne de football lors des Jeux Olympiques.
Au
Parc des Princes, avec des drapeaux palestiniens qui avaient été sortis. Il y avait eu quelques échauffourées à la sortie du stade du Parc des Princes. Ça s'était plutôt bien passé très rapidement. On n'avait pas trop relevé parce que les jeux se passaient plutôt bien, mais ce sont des alertes mineures qui inquiètent les services de renseignement lorsqu'on regroupe plusieurs alertes mineures.
Tu parlais du ministère des Sports. Justement, le ministre, je vous propose de l'écouter, c'est Gilles Averous. Désormais, il nous parle de cette rencontre France-Israël, et vous allez voir le parallèle qu'il fait. C'est un peu comme Marion Bartoli.
Pour le match France-Israël, évidemment, c'est un match à risque, hein, on le sait, et le gouvernement est mobilisé pour que ça se passe bien, particulièrement le ministère de l'Intérieur avec Bruno Retailleau. On a l'habitude d'organiser des événements internationaux compliqués. On a eu les Jeux Olympiques où tout le monde disait attention, la sécurité, la cérémonie d'ouverture, ça va être compliqué. Donc là, on y met les moyens, on sait faire. Voilà, moi, je suis pas plus inquiet que ça. On sait que c'est un match à risque et on en prend acte et on met les moyens qu'il faut pour que ça se passe bien.
Voilà, pas plus inquiet que ça, le ministre des Sports. Ben voilà, postule, Marion. Enfin, je sais pas si on postule vraiment, si on envoie un CV, mais c'est plus par lobbying. Mais là, je te fais confiance, hein, tranquillou. 10h26, France-Israël, et c'est encore un match de foot. Le résultat de cette consultation vous a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Nous sommes partis à 43-57, 43. Oui, c'est encore un match de foot. Malheureusement, vous n'avez pas fait votre retard. Vous avez même perdu du terrain, 41%, 41% face à 59%. Donc pour vous, non, ce n'est plus et ce n'est pas un match de foot. Ce sera jeudi, évidemment, sur RMC France-Israël. Toutes les dernières informations sur rmcsport.fr. Dans quelques instants, le dossier des GG. On va vous parler de natation. Parce que Léon Marchand, déjà, il est en France. Il va concourir en France aujourd'hui, à Montauban. Mais en plus, il y a beaucoup de jeunes nageurs qui veulent faire comme Léon Marchand. Direction les États-Unis, la fuite des talents. Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la natation française? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h31 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission avec ce matin Fred Weiss, Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Simon Dutin dans une dizaine de minutes. Les GG contre-attaque, 4 propositions de débat. Allez voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Les filles ont joué les coquines, on peut le dire, hein, Sarah et Marion, qui ont toutes les deux pris un débat Mbappé. Différent,
on appelle ça Christophe Cessieux dans le jargon.
Exactement. Sarah qui parle du capitana en bleu et Marion plutôt de son statut au Real. Est-ce que Carlo Ancelotti peut être lassé par l'attaquant français? Alors on s'est dit, il y aura dispersion des voix. Eh ben pas du tout les copains.
Ben non.
Les deux débats sont en tête. Voilà, les deux débats tels des gloutons sont en train de tout accaparer et malheureusement Cavendish et Embiid, même si c'était deux très bons débats, ça sent un peu la raclette, hein. Je vous cache pas les copains, c'est dans 10 minutes mais là ça sent pas bon, hein. Un commentaire?
Oui, on dit toujours qu'on parle trop de Mbappé, quand on parle pas de Mbappé, on en parle quand même en fait.
C'est un peu oui. Ça. Mmh. Bravo ça. Fred pour cet édito. Allez tout de suite la natation.
Here comes Marchand, the last 10 yards to an absolute masterpiece. How low will it be? At the wall, 402-31. 133-12, a monster start for Marchand.
Oh my goodness!
La méthode Léon Marchand fait des envieux. 3 ans après le départ du prodige aux États-Unis, les nageurs français rêvent tous d'un destin à la Léon. Et ils sont de plus en plus nombreux à déserter la formation française pour découvrir ce rêve américain. Notre spécialiste natation est avec nous, Julien Richard. Bonjour Julien.
Salut tout le monde.
Salut Julien. Bonjour.
Et oui, Julien, tu nous as préparé un reportage parce qu'on peut désormais parler de fuite des talents. Et la France ne peut pas faire grand-chose.
Oui, il est double champion d'Europe junior du 200 mètres brasse, c'est l'avenir de la discipline en France. Mais Lucien Vergne n'était pas à Montpellier la semaine dernière pour les championnats de France en petit bassin. À 20 ans, il est en train de vivre son rêve américain depuis la rentrée dans son université d'Arizona State, ASU. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est là où Léon Marchand a préparé les Jeux.
Léon, il a quand même ouvert la voie aux Français et on a envie de le suivre, quoi. Il y a ses records qui sont affichés à la piscine. J'ai envie d'aller les battre. Bon, évidemment, ça va pas être facile, mais...
Voilà, il y a 2 jours d'ailleurs, Lucien Vergne a affronté l'université de Berkeley avec dans ses rangs 3 autres Français. Lucie Vasquez, championne de France, elle, du 200 mètres brasse la semaine dernière, s'apprête à rejoindre justement Lucien Vergne dans l'Arizona en janvier. À 20 ans, la nageuse de Massy, elle a essayé, elle a eu sa première année de STAPS en France.
On nous propose des aménagements, mais pour les sportifs de niveau, c'est vraiment hyper mal fait. Et de base, du coup, j'avais pensé à arrêter de nager en fait pour faire mes études. J'ai essayé de trouver d'autres solutions et en fait, ce qui se présentait le mieux, c'était de partir aux États-Unis.
Concilier les études post-bac et le sport de haut niveau, c'est vraiment ça l'enjeu. Et partir en université américaine, c'est aussi une grosse opportunité.
Là, j'y vais avec une bourse à 100%. Ça veut dire qu'on me paye mes études, on me paye mon logement, ma nourriture. Enfin, moi, ma mère, elle est toute seule, on est trois. Tout ce qui est études et tout, je devais me débrouiller un peu. Alors que là, bah, déjà, on me paye tout. Et en plus, tout est fait pour les sportifs. Tout est fait pour que tu réussisses. Alors qu'ici, c'est toi qui dois t'adapter aux deux. Tous les nageurs à haut niveau, on en entend tous parler, on y pense tous. Après, forcément, Léon, bah, on a tous vu que ça marchait très bien. Et c'est vrai qu'il y a énormément de nageurs qui font ça.
Et en tout, ils sont une trentaine de nageurs français à avoir grossi les rangs des universités américaines. Une chose assez marquante, d'ailleurs, c'est que quasiment tous les médaillés des récentes compétitions internationales juniors font partie de ces départs.
Alors, Julien, comment la Fédération française de natation voit cet exode des jeunes talents ?
Alors forcément, c'est scruté de très près et avec une certaine vigilance, notamment du directeur des équipes de France, qui est en charge aussi de la relève, Denis Hauguin.
Les universités américaines sont très agressives sur le marché parce que pour elles, c'est un marché, tout simplement. Alors, sans doute, de notre côté, il y a un effet Léon Marchand. Du côté des États-Unis, ils se sont dit, finalement, en France, ils forment plutôt correctement leurs jeunes athlètes. Il y a un peu d'inquiétude. Dans quel état on peut les récupérer? On a des exemples qui ont très bien marché. On a des exemples qui ont très mal marché, finalement. Ça demande beaucoup de vigilance, oui.
Et il y a aussi de la vigilance, donc, mais une certaine fatalité face à la puissance donc des universités américaines. Le directeur technique national, Julien Issoulier.
Quand on voit le modèle des facs aux États-Unis où les sports pro, comme le football américain, le basket, financent finalement les autres programmes, en France, on n'a pas du tout cette économie-là. Donc, je pense que c'est un problème structurel en France de se dire comment on arrive à faire et du sport de haut niveau et des études.
Voilà, difficile de contrer cette puissance US et c'est d'autant plus frustrant pour les entraîneurs français qui forment ces nageurs. C'est le cas par exemple pour Nicolas Michele Storena qui est entraîneur du club francilien de Massy.
Mais c'est un sentiment de se dire tout simplement qu'il faut qu'on reste à notre place et qu'on fasse notre travail jusqu'au bac et qu'après c'est à nous de malheureusement de laisser partir ces athlètes-là parce que avant tout le but c'est qu'ils puissent performer plus tard.
La saison universitaire américaine, en tout cas dans la natation, un accent bien français cette saison.
Oui, on l'a bien compris, avec une trentaine de nageurs français désormais aux États-Unis. Merci beaucoup Julien Richard pour ce reportage passionnant. Tu restes avec nous pour ce débat. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la natation française? Que répondez-vous à cela? Les Américains, notamment, je sais, Sarah, tu y es proche, toi aussi, mon cher Fred. Sarah Pitkowski.
C'est pas une mauvaise nouvelle.
Pas une mauvaise nouvelle.
Non, on peut en tirer des très bon bénéfice pour les nageurs français.
On débattra après déjà.
Oui, mais je te le dis.
Pas de débat avant le débat.
Ok. Simon Dutin.
C'est une mauvaise nouvelle pour la natation française.
Plutôt mauvaise nouvelle. Oui. Fred Weiss.
C'est évidemment une bonne nouvelle.
Évidemment une bonne nouvelle. Marion Bartoli.
Évidemment une bonne nouvelle.
Évidemment une bonne nouvelle. Sarah, on commence justement avec toi. Pourquoi une bonne nouvelle?
Alors déjà, je vais prendre le parti de dire, mais pourquoi on dit parler de fuite de talent? Parce que ces jeunes-là, ils n'ont pas l'intention de changer de nationalité. Quoi qu'il arrive, ils concourront à un moment ou un autre pour l'équipe de France. Quand on parle de fuite de talent, on parle peut-être de... Là, c'est problématique dans d'autres sports où on a des entraîneurs, des experts qui vont aider d'autres sélections autres que l'équipe de France. Après... je vais aussi partir sur le terrain. C'est pas une question de bac ou d'études. C'est qu'aujourd'hui, les piscines en France, pour pouvoir faire du haut niveau, t'es obligé de te lever à 5 heures du matin et d'aller nager avant que la piscine elle ouvre.
Alors, au niveau des créneaux, tu peux pas lutter avec les Américains.
Mais oui, mais tu peux pas lutter. Donc, les conditions d'entraînement pour les nageurs, enfin, tu comprends que les carrières elles sont difficiles. C'est-à-dire que on est très loin de conditions de natation et de performance au plus haut niveau. Et en plus, aujourd'hui, les piscines municipales, elles sont de plus en plus léguées à des délégations de services publics. C'est-à-dire que les communes, elles donnent ça à des structures privées qui, elles ont la vocation à faire de l'argent, donc elles sont pas là non plus à aider à former les nageurs. Donc au-delà des études, aujourd'hui structurellement, comme il est dit, c'est super dur de sortir des nageurs. Alors évidemment, quand tu veux concilier tes études du haut niveau et être très très loin, parce qu'à mon avis Léon Marchand, le choix d'être allé là-bas, sachant qu'il a des chronos extraordinaires, il ne subit pas la pression qu'il pourrait subir s'il était dans un club en France. Donc même pour l'épanouissement du sportif...
Il est aussi entraîné par le meilleur entraîneur du monde.
Hein. Pour l'épanouissement du sportif, pour la protection, pour pouvoir continuer à grandir tout en étant protégé, le choix est formidable. Et pour tous ceux qui vont y aller... Eh ben, c'est ultra positif.
Moi, je suis absolument pas d'accord avec toi, Sarah. Il y a une énorme pression dans les universités où le sport est quelque chose de très important.
Oui, la pression du résultat.
Les mecs sont des stars dans
autour.
Les couloirs, tout le monde.
La pression du résultat. Ah bah, aux États-Unis, il n'y a que le résultat qui compte.
Bah, il y a le résultat, certes. Moi, je pense qu'on se fourre le doigt dans l'œil parce que des Léon Marchand, ça, on ne va pas en trouver tous les quatre matins sous le sabot d'un cheval. Donc, que son exemple fasse rêver, ça, je l'entends. Le modèle américain, pourquoi pas Bob Bowman, le narratif, l'entraîneur de Michael Phelps. Mais il faut se souvenir quand même qu'il y en a d'autres, hein, des Français qui sont allés expérimenter la méthode Bowman et qui sont revenus. Le regard tourné vers les États-Unis et je n'aime pas trop justement le conservatisme du genre et alors c'est pas mieux chez nous en France, on n'est pas plus con qu'ailleurs, machin. Mais le fait est que on a prouvé qu'on n'était pas plus con qu'ailleurs en natation à une époque où depuis tout petit quand on regardait la natation, on n'était pas invité pendant très longtemps dans les années 90 dans les même jusqu'à Maracineanu.
Mais quel est le rapport
pour vous dire qu'en fait
le
gap qu'on a comblé il y a 30 ans par rapport aux Américains, par rapport aux Australiens, par rapport aux meilleures nations européennes, on l'a fait avec des entraîneurs français. On l'a fait avec des entraîneurs français.
Mais c'est
Lionel Horter, Denis Hauguin, Philippe Lucas, Le Gaulle. Il y a 10 ans,
Simon,
les meilleurs nageurs venaient chez les entraîneurs français.
Il est sur les conditions d'entraînement.
Mon point, c'est de dire que tout d'un coup, parce que évidemment le phénomène de la natation mondiale, peut-être même à l'échelle de l'histoire de la natation, il s'entraîne aux États-Unis à la fac. On se dit bon ben maintenant on sait plus faire. Moi je vous rappelle que Alain Bernard qui devient champion olympique du 100 mètres nage libre, c'est des entraîneurs français, c'est Denis Hauguin, et on n'est pas allé voir comment les Américains
font. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont envie de continuer leur cursus scolaire.
Vous me parlez du planning de Mme Sombier qui ouvre la piscine municipale.
Mais tu crois qu'ils s'entraînent comment?
Non, mais je suis désolé, mais ils s'entraînent comment?
Ils s'entraînent à 6h du mat.
Il y a des clubs de natation.
Est-ce que tu as déjà visité une université américaine?
Non, mais
moi, j'ai visité une université pour être proposé d'y aller, et j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues dans les plus grands clubs français de basket, que j'ai jamais vu dans les plus grands clubs français de
professionnels. Ils ont des infrastructures,
tu ne peux pas lutter contre ça. Ils ont des créneaux tu ne peux pas lutter contre ça parce que eux, leur but unique, c'est te faire aller à l'école un tout petit peu et de te faire progresser énormément dans le sport.
Et de ramener des titres pour l'université.
Est au cœur de ton projet.
Mais en quoi c'est une bonne nouvelle pour la natation française, justement?
Tu vas progresser.
Ça veut dire qu'il y a des choses à faire au niveau fédéral, qu'il y a une politique.
Ce que je veux vous dire, c'est que la France,
excusez-moi, s'il y a un déficit de moyens ou un écart de moyens, ce déficit de moyens, vous m'accorderez qu'il y a 30 ans, il était peut-être encore plus grand avant qu'on gagne.
Oui,
on a réussi à combler un écart qui, à l'époque, était beaucoup plus grand que celui qui existe aujourd'hui entre les nageurs-nageuses français et le reste du monde.
Tu vois le haut de la pyramide.
Parce que Léon Marchand, c'est pas le haut de la pyramide.
Mais si, mais ce que je veux dire,
mais
si,
tu enlèves toutes les médailles de Léon Marchand, je dis, oh, tu vas voir ce qui reste.
Marion Bartoli.
Pour moi, non, je suis complètement d'accord avec Sarah. En plus, on a voyagé toutes les deux. Le modèle américain, on le connaît par cœur. Les universités américaines ont joué même des tournois de tennis, WTA, dans les universités américaines. Donc, on sait très bien comment le système fonctionne. Et aujourd'hui, les jeunes, c'est pour ça que c'est très intéressant d'écouter le papier, justement, qui a été donné avant qu'on en discute. C'est que ce sont les jeunes qui sortent de leurs années de junior, qui désirent aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on leur paye une bourse scolaire qui leur permet justement d'assurer, entre guillemets, leurs arrières. Et que si éventuellement, malheureusement pour eux, ils n'arrivent pas à performer autant que prévu en natation, ils ressortiront avec un diplôme qui pourront leur permettre d'aller trouver un job là-bas. Ils ont des universités avec des bourses qui coûtent extrêmement cher, qui ne pourraient pas être financées par leur famille en France, et ça leur ouvre des perspectives qui sont colossales. Même Nicolas Castel, l'entraîneur de Léon Le Marchand, le reconnaît, le programme sportif est beaucoup plus fun, il est beaucoup plus attrayant qu'en France, il y a une dynamique collective, tu concours pour ton université, les autres sont contents si tu fais des résultats,
il y a une émulation
qui se crée.
Parce que si tu gagnes pour la France, on s'en fout de là où tu t'entraînes. Ils vont toujours continuer à nager pour la France. Léon Marchand, quand il a été sur la première marche du podium, c'est bien l'hymne national français qu'on a entendu. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il aille s'entraîner par Bob Bowman et qu'il se lève à...
pour un marchand qui va gagner et qui va mm-hmm. rincer toute la planète pendant des années. Pourquoi les entraîneurs français sont devenus des chèvres alors
Mais ce n'est pas des chèvres, c'est juste que le programme.
C'est peut-être une question justement de talent chez les nageurs, mais ça c'est pas la fédération qui est en cause.
Mais tu sais, Sarah parlait du fait qu'effectivement, malheureusement, ou je sais pas malheureusement, mais les conditions d'entraînement en France sont très compliquées. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention justement le programme que Bob Bowman avait mis en place pour Léon Marchand. Bon, il lui demandait d'aller nager avant ses cours du matin, parce qu'il avait cours à partir de 8h, donc il nageait, il se levait à 5h15, il nageait de 6 à 8, mais derrière il avait sa session de sport après ses cours, et puis derrière c'est sa deuxième session de natation. Il a reproduit effectivement le même programme qu'il avait fait faire à Michael Phelps. Il n'y avait pas de jour férié, il n'y avait pas de Noël, il n'y avait pas de dimanche, il n'y avait rien, et tu nageais tous les jours parce qu'il a vu en Léon Marchand cette capacité de le faire. Mais même si on a des nageurs qui ne sont peut-être pas dans la capacité d'aller atteindre le niveau de Léon Marchand, ce qui leur est donné comme possibilité de s'épanouir à travers le sport est quelque chose qu'en France on n'est pas capable de faire pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable d'évoluer. Et là, rappelle-toi Fred du discours qu'on avait pendant les JO. Si on est capable de mettre le sport plus au centre de l'école et pas de se dire uniquement tous les 4 ans on entend parler de sport avec les JO et puis après on oublie, on sera quand même capable de progresser. Donc moi j'ai envie que ça serve d'exemple et qu'on essaye un minimum de s'en inspirer.
Parfait. Si vous voulez en reparler, je sais qu'on nous appelle les auditeurs au 32-16, c'est 11h45 pour reparler de ce sujet passionnant. Justement, Léon Marchand fait son grand retour en France aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on vous fait ce sujet aujourd'hui. Après les Jeux Olympiques, c'est la première fois qu'il va concourir et qu'il concourt en France, le phénomène français participe aux interclubs régionaux à Montauban avec son club de Toulouse. Kevin Morand est notre envoyé spécial sur place. Il est avec nous, Léon Marchand, qui vient de nager justement. Et c'est forcément un événement, Kevin.
Ouais, salut Jean-Christophe, salut les GG, salut à tous. En effet, premier plongeon pour Léon Marchand depuis les JO ici en France, pour lui en compétition. Et c'est un peu un grand écart entre la Défense Arena et ces dizaines de milliers de spectateurs et ici cette piscine Ingréo de Montauban avec ses interclubs, piscine fermée au public. Il y a seulement les 500 participants des différentes compétitions régionales donc de la journée. C'est donc la première fois depuis ses 4 médailles d'or qu'il est en France. Il a depuis fait les Coupes du Monde en Asie avec notamment un nouveau record du monde sur 200 mètres 4 nages. Il est rentré lundi dernier à Toulouse et donc ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas fait de compétition avec son club des Dauphins du TOEC de Toulouse, où il a gardé sa licence malgré son départ aux États-Unis. C'est une ambiance interclub qu'il a connue un petit peu avec Arizona State, là où il s'entraînait aux États-Unis, mais donc je vous le disais, il n'y a pas de public. Néanmoins, il y a eu beaucoup de demandes, notamment pour être parmi les officiels chronométreurs par exemple sur ces interclubs, parce qu'il y a évidemment une attraction autour de lui, même s'il est arrivé comme un nageur comme les autres finalement ce matin à 8h en quart avec tout son club du TOEC. Voilà, il est parmi les siens en fait aujourd'hui. Il est là pour prendre du plaisir dans l'eau sur ce petit bassin de Montauban. 3 relais pour lui, il en a déjà fait un, le 10x50 que son club le TOEC a gagné. Il était en deuxième sur la série. Il a mis plus de 2 secondes à son premier concurrent sur cette série. Il y en aura 2 autres relais et puis une compétition en individuel, le 200 mètres brasse tout à l'heure. Voilà.
Merci beaucoup Kevin Morand, c'est fou, hein. On est en train de suivre les interclubs régionaux à Montauban. C'est dire si Léon Marchand est devenu un dieu ici dans notre pays. Merci Julien Richard, merci Kevin Morand d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque et peut-être du Mbappé, peut-être, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Toujours avec Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Simon Dutin, Fred Weiss à partir de 11h, direction les Sables d'Olonne pour le grand départ du Vendée Globe. Mais tout de suite, les GG, c'est à vous de jouer.
RMC. Les GG contre-attaque.
4 propositions de débat faites par les GG ce matin. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport. Alors à la 4e place, Joël Embiid sanctionné pour avoir bousculé un journaliste. 13%
ça,
malheureusement.
Ça fait 1%.
On n'en parlera pas. 13%. Pourtant, c'est un bon sujet.
Pas mal, 4e place.
J'ai fait un bide.
Mais oui, bravo.
C'est lent.
Cavendish parmi les GOAT, celui qui dispute sa dernière course professionnelle aujourd'hui, 19%. C'est un très bon sujet aussi. Tu t'es bien battu, Simon.
Oui, je rappelle que je remplace Christophe Cessieux. Moi, j'ai interdiction de proposer un débat sur Mbappé. Donc,
c'est compliqué. Vous avez été battu par 2 débats Mbappé. Doit-il toujours être le capitaine en équipe de France proposé par Sarah, deuxième, 24%. Bravo, Sarah.
Oui.
Et première, Marion Bartoli, 44%. Carlo Ancelotti va-t-il être lassé par Kylian Mbappé? C'est une nette victoire. Propose-nous ton sujet. On t'écoute, Marion.
Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, effectivement, depuis le début de la saison, c'est comment ça se passe pour Kylian au Real, parce qu'on attendait énormément ce transfert, parce qu'il a refusé deux fois le Real. Et puis, on s'est dit, quand même, il a passé l'année un petit peu compliquée au PSG. Ça n'a pas été terrible à l'Euro. Est-ce que Ancelotti, l'entraîneur avec tous ses succès, les Ligues des Champions, etc., va être capable de le remettre dans le bon chemin? Eh ben non. Et surtout, ce qui est en train de beaucoup m'inquiéter, c'est qu'Ancelotti est vraiment sur la sellette, qu'en Espagne, dans la presse, il est en train de se faire cartonner dans tous les sens, que Bellingham, il arrive même plus à marcher droit, donc il ne met plus un but, alors que l'année dernière, il marchait sur l'eau, et qu'en fait, il y a une espèce de déséquilibre qui est en train de se créer. Et même si le Real gagne 4-0 hier, il y a Vinicius qui te met un triplé, et ben Kylian, il arrive même pas à marquer. Donc, je me dis, est-ce qu'Ancelotti, on l'oblige à faire jouer Mbappé parce que c'est le transfert quasiment du siècle pour le Real et qui donc absolument il faut le faire jouer et qu'il a qu'à se démerder pour arriver à ce que l'équipe tourne, ou est-ce qu'on lui laisse finalement gérer son équipe et son effectif et qu'à un moment donné il va se dire j'ai quand même pas envie que ça soit ma tête qui parte du banc du Real, et donc c'est plutôt moi qui vais mettre Mbappé sur le banc pour arriver à ce que mon équipe sera plus équilibrée. Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions, mais ça m'intéresse énormément d'avoir l'avis de mes collègues.
Et bien justement, on va leur demander, et tu fais référence aussi au match d'hier où une nouvelle fois Kylian Mbappé, c'est le cas depuis un mois, n'a pas marqué avec le Real Madrid malgré la victoire 4-0 des Madrilènes, triplé de Vinicius, un but de Jude Bellingham. Est-ce que Carlo Ancelotti va commencer à s'impatienter concernant Kylian Mbappé, Simon Dutin?
Moi je pense qu'il s'est déjà impatienté. Je suis partisan de la théorie consiste à imaginer que c'est quand même une pierre dans son jardin et que si on lui avait totalement laissé le choix, c'est pas Kylian Mbappé qu'il aurait recruté cet été pour renforcer son équipe. C'est un choix qui lui a été imposé. Et malheureusement, qu'il perde patience ou pas, je pense qu'il n'a pas le choix, que c'est débrouille-toi mon gros, mais il faut que ça marche avec Mbappé, avec Vinicius, avec Bellingham. Le problème d'intégration, il est criant. Il y a forcément deux gros chiens pour le même jardin, hein, je pense au côté gauche du terrain.
Cette métaphore est magnifique.
Sauf que le Bernabéu, et il l'a prouvé encore hier, c'est le jardin de Vinicius, c'est chez lui, c'est lui le patron, c'est lui qui a la boucle d'oreille numéro 7 accroché et qui porte le maillot,
ouais, mais tu
qui,
vois, Simon, ce qui m'arrête.
C'est lui le patron de cette équipe, et Ancelotti, à moins qu'il se réinvente tactiquement, et je pense que c'est ce qu'il sera condamné à faire, c'est-à-dire trouver une solution sacrifier Rodrigo et jouer à deux devant avec Vinicius. Pour l'instant, il y a un problème d'équilibre et qui, on va pas faire deux heures, mais qui s'explique aussi par la perte d'un Toni Kroos, d'un mec qui contrôle le jeu au milieu de terrain, et c'est ça, je pense, qui leur manque principalement.
Mais regarde, quand tu vois l'explication de Thierry Henry qui pendant 5 minutes t'explique que le positionnement d'Mbappé est complètement faux sur le terrain et qu'il arrive pas, d'ailleurs les 8 hors-jeu sont criants.
C'était cette semaine en Ligue des Champions,
Voilà, pour démontrer cela, mais qu'il n'arrive pas à s'adapter au poste de numéro 9. Quand tu vois la blessure, malheureusement, qu'il y a eu hier un défenseur du Real, donc tu perds un nouveau défenseur, cette équipe-là, quand même cette année, en train d'accumuler les tuiles, et je me demande si Ancelotti va arriver à résister à tout ça.
Moi, je pense que Ancelotti va résister tant que le stade sera derrière Mbappé. Son nom a été scandé pour le match encore. Il a été encouragé.
Oui, mais t'as l'impression que c'était pour
le motiver un petit peu.
Comme pour être entre guillemets en train de se dire tu subis un calvaire et on est un petit peu derrière toi. C'est quasiment la moquerie.
Alors non, je pense pas que ce soit de la moquerie. Je pense que c'est de l'encouragement, parce qu'effectivement ils savent qu'il est en train de subir un calvaire. Donc je pense que tant que le stade sera derrière lui, je pense qu'Ancelotti sera derrière lui. Mais si un jour, et je pense que ça va pas tarder, parce que à Madrid on est sans pitié, je pense que si un jour ça change, Ancelotti changera lui aussi.
Ok, voilà pour le débat concernant Kylian Mbappé. Tu veux rajouter quelque chose, Sarah?
Non,
personnel, merci.
Bon, okay.
T'as pas gagné avec
mais c'est vrai que, enfin, la question se pose et j'ai pas de réponse. En tout cas, les prochains matchs vont quand même être compliqué.
En tout cas, ça va pas durer très longtemps pour qu'il ne bouge pas.
Oui, mais ça va être compliqué. Et pour Ancelotti et pour Mbappé, s'il y en a pas un qui prend une décision ou qui...
Surtout avec les prochains matchs en Ligue des Champions qui arrivent.
Important de préciser, c'est peut-être de la com, mais en tout cas, Ancelotti qui a apporté son soutien hier à Kylian Mbappé en disant que il est convaincu que les buts vont arriver.
Comme quand les présidents donnent leur soutien au coach et qu'il les vient
respecter. Et même les joueurs, Luka Modric était présent en conférence de presse hier et il a déclaré son soutien.
C'est plein d'anciens joueurs, dont Benzema, ex du Real, qui donne des conseils et qui a vraiment, en tout cas, il laisse paraître qu'il faut que Mbappé réussisse au Real, mais okay. L'avenir nous le dira. Hein.
Très bien. 10h57. On se retrouve dans quelques instants pour le Vendée Globe. La 10e édition. Le départ c'est à 13h02. On se posera cette question. Est-ce que ce Vendée Globe a perdu un petit peu de sa superbe? Oui ou non? Est-ce que le mythe existe encore? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.